20. Hodges traverse à nouveau la ville, tripotant sa radio à la recherche d'un bon morceau de hard rock. Il tombe sur My Sharona par les nacks sur Bamsan et monte le volume. Quand la chanson se termine, l'animateur revient, parlant d'une grosse tempête venant des Rocheuses et se dirigeant vers l'est. Hodges n'y prête pas attention. Il pense à Brady et à la première fois où il a vu un de ses apites. C'était Bibi Hall qui les distribuait. Quel était le nom de famille de Hall? Il n'arrive pas à se rappeler, si tant est qu'il l'ait jamais su. Quand il arrive dans ce bar au nom amusant, il trouve Norma Wilmer installée à une table du fond, à l'écart de la foule excitée d'hommes d'affaires braillant et se tapant dans le dos, tout en se frayant un chemin jusqu'au comptoir. Norma a troqué son uniforme d'infirmière contre un tailleur pantalon vert foncé et des petits talons. Il y a déjà un verre devant elle.
« C'est moi qui étais censé payer, » dit-il en s'asseyant en face d'elle.
« Ne vous inquiétez pas, » dit-elle. « J'ai encore rien réglé. La note vous attend. »«
Je préfère ça. »
Si quelqu'un me voyait parler avec vous et le rapporter à Babino, il ne pourrait certes pas me virer ni même me faire transférer dans un autre service, mais il pourrait me mener la vie dure. Remarquez, moi aussi je pourrais lui rendre l'appareil.
Vraiment?
Vraiment. Je pense qu'il pratique des expériences sur votre vieux copain Brady Hartsfield. Il lui administre des pilules contenant Dieu sait quoi. Des injections aussi. Des vitamines, soi-disant.
Hodges la regarde avec surprise. Depuis combien de temps?
Des années. C'est une des raisons pour lesquelles Becky Elmington a quitté le service. Elle ne voulait pas être l'infirmière qui se retrouverait au centre du scandale si Babino lui donnait la mauvaise vitamine et le tuait.
La serveuse arrive.
Hodges commande un coca avec une cerise dedans.
Norma renacle.
Un coca? Sérieusement? Allez, quoi, soyez un homme, un vrai.
J'ai renversé plus d'alcool dans ma vie que vous n'en boirez jamais, ma toute belle, dit Hodges. « Bon sang, mais qu'est-ce que peut bien trafiquer Babino ?» Elle hausse les épaules.
« Aucune idée. Mais il ne serait pas le premier toubib à faire des expériences sur quelqu'un dont le monde entier n'a rien à carrer. Vous avez déjà entendu parler de l'étude de Tuskegee sur la syphilis? Le gouvernement américain a utilisé 400 hommes noirs comme rats de laboratoire. Ça a duré 40 ans. Et à ma connaissance, aucun d'eux n'avait foncé dans une foule de gens sans défense. »
Elle lui fait un sourire en coin.
« Enquêtez sur Babino. Coincez-le. Je vous mets au défi. »
« C'est Hartsfield qui m'intéresse. Mais compte tenu de ce que vous me dites, je ne serais pas surpris si Babino en subissait les retombées. »«
Alors vive les retombées !»
L'exaltation de Norma lui laisse à penser qu'elle n'en est pas à son premier verre. Après tout, il est un fin limier.
Quand la serveuse arrive avec le coca de Hodges, Norma descend son verre d'une traite et le lui tend. « La même chose, s'il vous plaît. Et puisque c'est le gentleman qui paye, autant m'en mettre un double. »
La serveuse prend le verre et s'en va.
Norma reporte son attention sur Hodges. « Vous disiez avoir des questions. Allez-y tant que je peux encore y répondre. J'ai la bouche légèrement engourdie et ça va pas aller en s'arrangeant. »
« Qui est sur la liste des visiteurs de Brady ?»
Norma fronce les sourcils. « La liste des visiteurs? Vous plaisantez. Qui vous a dit qu'il avait une liste de visiteurs ?»«
Feu Ruth Scapelli. Juste après avoir remplacé Becky. Je lui avais proposé $50 en échange des rumeurs qu'elle entendrait sur lui. C'était mon tarif avec Becky. Et elle a réagi comme si je lui avais pissé sur les godasses. Puis elle a dit « Vous n'êtes même pas sur sa liste de visiteurs. » Et aujourd'hui, Babino a dit
« Oui, je sais. » Des conneries à propos du procureur. J'ai entendu, Bill. J'étais là.
La serveuse pose le nouveau verre de Norma devant elle et Hodges sait qu'il ferait mieux de se dépêcher d'en finir avant qu'elle se mette à lui rebattre les oreilles avec tout. De son boulot, où elle se sent sous-estimée, à sa vie amoureuse, triste et inexistante. Quand les infirmières boivent, elles ont tendance à se lâcher. Elles sont un peu comme les flics pour ça. « Vous travaillez dans le bocal depuis aussi longtemps que j'ai commencé à venir. »«
Bien plus longtemps. 12 ans. »
Elle articule 12 ans comme 12 ans. Elle lève son verre pour porter un toast et avale la moitié de son martini.
« Et voilà que maintenant, je suis promu chef de service, du moins temporairement.
Deux fois plus de responsabilités pour le même salaire, j'en doute pas.
Avez-vous vu quelqu'un du bureau du procureur récemment?
Non. Il y a eu toute une brigade d'attachés case au début, accompagnée de médecins toutou qui trépignaient d'impatience à l'idée de déclarer le fils de pute apte à passer en jugement. Mais ils sont tous repartis la queue entre les jambes quand ils l'ont vu baver et essayer d'attraper une cuillère. Ils sont revenus à plusieurs reprises pour vérifier. De moins en moins nombreux à chaque fois. Mais rien dernièrement. De leur point de vue, c'est rien qu'un légume. Terminé, point barre.
Donc ils s'en fichent. Évidemment. Excepté quelques rétrospectives occasionnelles, les jours où l'actualité est au ralenti, l'intérêt porté à Brady Hartsfield est peu à peu retombé. Il existe toujours des dépouilles plus fraîches pour les charognards.
Vous savez bien qu'oui.
Une mèche de cheveux est tombée devant ses yeux. Elle souffle dessus pour la repousser.
Est-ce qu'on a déjà essayé de vous empêcher de le voir?
Non, pense Hodges. Mais ça fait un an et demi que j'ai arrêté de venir. S'il y avait une liste...
Elle serait de Babino, pas du procureur. Sur la question du tueur à la Mercedes, le procureur est comme le blaireau puant, Bill. Il s'en tape.
Le quoi?
Laissez tomber.
Vous pourriez vérifier si une telle liste existe, maintenant que vous êtes chef de service.
Elle réfléchit, puis dit.
Elle ne peut pas être sur l'ordinateur. Ce serait trop facile d'accès. Mais Scapelli gardait des dossiers dans un tiroir du bureau de l'accueil qu'elle fermait à clé. Elle était très forte pour recenser qui avait été méchant et qui avait été gentil. Si je trouve quelque chose, est-ce que ça vaudra 20 dollars?
50, si vous m'appelez demain.
Hodges ne sait même pas si elle se souviendra de cette conversation demain.
Chaque seconde compte.
Si une telle liste existe, c'est sûrement rien de plus qu'un coup d'ego trip. Vous savez, Babino aime avoir Hartsfield pour lui tout seul.
Mais vous vérifierez?
Ouais. Qu'est-ce qui m'en empêche? Je sais où Scapelli gardait la clé de son tiroir. Merde, tous les infirmiers du service le savent. Dur de se faire à l'idée que la vieille Ratchet soit morte.
Hodges hoche la tête.
Il peut faire bouger des trucs, vous savez, sans les toucher.
Norma ne le regarde pas. Elle fait des cercles sur la table avec le pied de son verre. On dirait qu'elle essaie de reproduire le logo des Jeux Olympiques.
Hartsfield?
De qui on parle? Ouais, Hartsfield. Il fait ça pour foutre la trouille aux infirmiers.
Elle lève la tête.
Je suis saoule. Alors je vais vous dire un truc que je dirais jamais si j'étais sobre. J'aimerais que Babino le tue, qu'il lui injecte un truc vraiment toxique et qu'il le fasse dégager, parce qu'il me fait peur.
Elle marque une pause, puis ajoute.
Il nous fait peur à tous.
21. Holly arrive à joindre l'assistant personnel de Todd Schneider à l'instant où il s'apprête à fermer le bureau pour partir. L'assistant lui dit que M. Schneider devrait être disponible entre 8h30 et 9h demain matin. Après ça, il a des rendez-vous toute la journée. Holly raccroche, se passe de l'eau sur le visage dans le minuscule cabinet de toilette, se remet du déodorant, ferme le bureau et décolle pour Kinner, juste à temps pour se retrouver dans les bouchons du soir. Il est 6h et il fait nuit noire quand elle arrive enfin. La femme au bureau des renseignements vérifie sur son ordinateur et lui dit que Barbara Robinson est chambre 528, LB.
« C'est en soins intensifs ?» demande Holly.
« Non, madame. »«
Bien, »
dit Holly, et elle poursuit son chemin en faisant claquer ses chaussures à petits talons confortables. L'ascenseur s'arrête au 5e étage et s'ouvre sur les parents de Barbara qui attendent pour monter. Tania a son téléphone portable à la main et regarde Holly comme si c'était une apparition. Jim Robinson dit qu'il n'y croit pas. Holly se recroqueville un peu sur elle-même.
« Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Rien, » dit Tania. « C'est juste que j'allais t'appeler. » Les portes de l'ascenseur commencent à se refermer. Jim passe son bras et elle s'écarte à nouveau. Holly sort.
« En arrivant en bas, »
termine Tania, et elle montre un écriteau sur le mur. C'est un téléphone portable barré d'un trait rouge.
« Moi? Pourquoi ?» Je croyais qu'elle avait juste une jambe cassée. Enfin, je sais qu'une jambe cassée, c'est grave, mais...
Elle est réveillée et elle va bien.
la coupe Jim, mais lui et Tanya échangent un regard qui suggère le contraire.
La fracture est plutôt propre, à vrai dire. Mais ils lui ont trouvé une vilaine bosse à l'arrière de la tête, et ils ont décidé de la garder en observation pour la nuit. Le médecin qui lui a réparé la jambe dit qu'il est sûr à 99% qu'elle pourra sortir demain.
Ils ont fait des analyses toxicologiques, dit Tanya. Aucune trace de drogue dans son organisme, ce à quoi je m'attendais.
Mais c'est quand même un soulagement.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?
Tout,
répond simplement Tanya. Elle a l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois où Holly l'a vue.
C'est la maman d'Hilda Carver qui a emmené Barb et sa fille à l'école aujourd'hui. C'est sa semaine. Selon elle, Barbara allait bien dans la voiture. Un peu plus silencieuse que d'habitude, mais en forme. Barbara a dit à Hilda qu'elle devait aller aux toilettes, et c'est la dernière fois qu'Hilda l'a vue. Elle dit que Barb a dû sortir par l'une des portes latérales du gymnase. Les portes de secours, comme les appellent les élèves.
Et Barbara, qu'est-ce qu'elle dit ?
Rien. Elle ne veut rien nous dire.
Sa voix tremble et Jim passe un bras autour de ses épaules.
Mais elle dit qu'elle veut bien te parler à toi. C'est pour ça que j'allais t'appeler. Elle dit que tu es la seule qui pourrait comprendre.